autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Ravie de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour célébrer à notre manière la Journée mondiale de l'Afrique. Nous avons eu envie de partager à nouveau avec vous un formidable échange que nous avions eu la chance d'organiser à Lausanne l'été dernier pendant la conférence internationale des journalistes scientifiques. Nous avions pu réunir dans les studios de la radio-télévision suisse nos consoeurs et confrères du continent venus comme un millier de journalistes scientifiques du monde entier partager, s'informer, tisser des liens et un réseau de collaboration sans frontières. Malgré les défis et les obstacles spécifiques au Sud en général et à l'Afrique en particulier, manque d'accès aux sources, manque de moyens, de considération, de support et de formation, je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de mes amis, confrères et consœurs du continent qui sont vraiment prêts à tout pour faire passer leur science. Et je suis ravie de partager le micro avec ma consœur, Lindrenée Batongué, en charge de l'environnement et du développement durable à la radio-télévision camerounaise à Yaoundé, Mamadou Traoré de l'agence ivoirienne de presse à Abidjan et du site d'information SciDev, Isaac Rungningbe, médecin devenu rédacteur en chef de Radio Univers à l'université d'Abomey-Calaoui au Bénin, et Valdès Onanina de la rédaction francophone d'Africa Tchèque à Dakar, autour de la question comment développer le journalisme scientifique et la culture scientifique en Afrique. Bienvenue pour réécouter cette émission à 5 voire à 6 voix, puisque c'était Stéphane Kenmoé, le pas sorcier camerounais, brillant physicien et vulgarisateur de science à la télévision camerounaise, qui avait ouvert notre débat et notre réflexion commune le 3 juillet dernier à Lausanne.
Je pense que le journalisme scientifique contribue à bâtir la culture scientifique en Afrique parce que, comme on le sait, tous les pays sous-développés ont un dénominateur commun, c'est-à-dire le manque criant de culture scientifique. Donc, le journalisme scientifique, la communication et tout ce qui va autour contribuent à créer la culture scientifique. Moi, j'aime toucher les masses. J'aime rejoindre les programmes en fait, qui sont destinés aux masses populaires. J'anime une rubrique de science à la chaîne de télévision Canal 2. Et très souvent, mes partenaires de plateau sont des comédiens, des musiciens, des footballeurs. Et au milieu d'eux, j'essaie de faire de la science la star. Parce que c'est là où naissent les vocations. Lorsque j'ai un ami qui est le meilleur comédien du Cameroun, lorsque des enfants viennent regarder cette émission, c'est pour le voir lui, c'est pour voir les musiciens, c'est pour voir les sportifs. Mais moi je viens, vous avez vu mon look, c'est pas un look ordinaire pour un scientifique, on dirait. Mais j'essaie donc de faire la science la star parmi les stars. C'est comme ça que je contribue à faire grandir la science. Et tout ça dans quel but ? Dans le but de créer une certaine masse critique, des petits rêveurs qui demain vont atteindre un régime de saturation qui va permettre un peu de bouger les lignes chez les politiciens. Moi, je ne suis pas pour les méthodes fortes où il faut revendiquer, crier, dire que donnez-nous de l'argent, augmenter le PIB. Je pense que ça vient tout doucement comme les phases de transition en physique. Vous voyez, il faut une température sociale adéquate et une pression adéquate sur les décideurs pour que les choses changent.
À bon entendeur, créer une masse critique de petits rêveurs, jolie introduction de Stéphane Kenmoé, physicien et passeur de science à la télé camerounaise, où vous êtes journaliste scientifique. Lindrenée Batongué, bonjour.
Bonjour Caroline.
Très heureuse de vous avoir en studio, Lynn, avec nous, une femme journaliste scientifique de terrain en Afrique. C'est assez rare et précieux pour être cultivée. Vous êtes chef de service en charge de l'environnement et du développement durable à la radio-télévision camerounaise à Yaoundé, présidente de l'Association des journalistes scientifiques du Cameroun. Vous êtes, on l'a dit, une journaliste de terrain. Alors, sur le terrain de la science, justement, comment ça se passe au Cameroun ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça avance ?
Ça a quand même un peu avancé au Cameroun. On a réussi à faire de petits pas. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire dans le cadre du journalisme scientifique. Du coup, on a déjà réussi à imposer pratiquement dans la plupart des médias, que ce soit en presse écrite, en radio, en télévision et même dans la presse en ligne. On a réussi à imposer des sujets scientifiques. Beaucoup de journaux aujourd'hui ont des pages science, et même qu'au niveau de la CRTV, qui est la radio-télévision nationale, on a réussi à faire créer tout un service science et particulièrement un service en charge de la santé, de l'environnement, du développement durable. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On peut dire que la science, effectivement, s'est avancée. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Bon, il y a des obstacles.
Hein. Oui. Il y a effectivement beaucoup d'obstacles, surtout quand on est une femme journaliste. il y a déjà ça comme premier obstacle. Mais maintenant, quand on fait du journalisme scientifique, ce n'est pas évident. Mais dans l'exercice pour tous les journalistes, en réalité, faire du journalisme scientifique, ce n'est pas toujours évident au Cameroun parce qu'il y a la difficulté des sources. Il y a toutes ces sources-là qui ne sont pas toujours disposées, qui n'ont pas toujours le même calendrier que le journaliste. Et donc, ça devient difficile. Il y a également le terrain parce qu'il faut en fait toujours aller sur le terrain pour pouvoir montrer ce qui se passe sur le terrain, pour voir comment est-ce que les résultats de la recherche faite par tous ces scientifiques sont implémentés sur le terrain même, et ça, c'est pas ce qui est le plus évident en tout cas.
Vous m'avez tous parlé, hein, d'ailleurs, on y reviendra, de la question de l'accès aux sources. Bonjour Valdez Onanina.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes journaliste et vérificateur des faits à la rédaction francophone d'Africa Check à Dakar, spécialisé donc dans la traque des fake news. Vous observez, vous analysez la désinformation dans les médias et sur Internet. On peut dire qu'il y a du boulot, c'est colossal en fait, hein, je pense. C'est essentiel aujourd'hui dans tous les domaines et en particulier en science, c'est ça, de traquer les fausses informations, les rumeurs aussi.
Oui, évidemment, parce qu'on est convaincu à Africa Check que les fausses informations, les rumeurs sur la santé, sur les sciences de façon générale, sont celles qui touchent le plus directement possible en fait au quotidien des personnes, à la vie des gens. Et donc on a décidé à Africa Check franchement de réserver une partie importante de notre travail à la vérification des fausses informations sur la santé, principalement, parce qu'en fait, la plupart des fausses informations sur la science, si on veut, concernent précisément la santé.
C'est là où il y a les rumeurs, et les rumeurs les plus dangereuses qui peuvent circuler, on y reviendra. Exactement. Bonjour Amadou Traoré.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de l'agence ivoirienne de presse et correspondant en Côte d'Ivoire de la rédaction francophone de SciDev, un site très sérieux d'information scientifique. Vous êtes aussi président de l'association Médias pour la science et le développement en Côte d'Ivoire, où les défis, j'imagine, sont nombreux. Pour les journalistes scientifiques, on a parlé un peu, j'ai envie de dire que c'est presque un sacerdoce, hein, sur le continent, il faut le vouloir. Hein.
Ah oui, il faut le vouloir, surtout en Côte d'Ivoire, c'est un pays où la presse est très politisée, parce que la presse, les conditions même de la libéralisation de la presse en Côte d'Ivoire sont des conditions qui arrivent au moment du multipartisme dans les années 90. Du coup, les journaux sont pour la plupart proches des chapelles politiques, ce qui fait que l'actualité politique domine l'information en Côte d'Ivoire. Alors, parler de journalisme scientifique, il faut vraiment aimer le métier et aimer le domaine.
Tout est politique, en fait. On vous demande d'être politique. Et les journaux, ça marche mieux, la politique, que la science, on va le dire comme ça.
Justement, hein. Les journaux, comme on le dit, pour être vendables, il faut parler politique. Alors nous, en tant que journalistes scientifiques, nous essayons de nous organiser, d'où la naissance donc de cette association-là, pour permettre aux journalistes scientifiques de se mettre ensemble, d'avoir des bases de travail et également d'être outillés à traiter les questions.
On va rester en lien là-dessus, hein, Mamadou Traoré. Bonjour Isaac Ouningbe.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes docteur en médecine, hein, tout de même médecin, devenu journaliste scientifique au Bénin, rédacteur en chef de Radio Univers de l'université d'Abomey-Calavi et blogueur également sur araya.com. C'est une plateforme de vulgarisation, hein, thématique de santé adressée plutôt aux professionnels. Vous avez organisé à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin donc la toute première édition d'une rencontre science-presse qui a rassemblé une centaine de chercheurs et de journalistes sur le campus d'Abomey. C'est une première, ça, hein, histoire de faire bouger les lignes.
Bien sûr, c'est une première dans notre pays. Et puis, en fait, cette conférence a été organisée en avril dernier. L'objectif, c'est de briser les barrières entre les chercheurs et les journalistes, parce qu'on a constaté que ces deux acteurs ont chacun leur ego. Il fallait donc fusionner ces égos-là.
Parce que c'est compliqué de faire parler les chercheurs, d'avoir accès aux chercheurs et qu'ils acceptent de vous parler.
Les journalistes reprochent aux chercheurs donc de ne pas être disponibles, de se voir un peu d'euros. Et puis les chercheurs qui reprochent, je voulais dire, aux journalistes de déformer l'information scientifique. Donc chacun dans son domaine, chacun dans son camp, essaie donc d'accuser l'autre. Il fallait donc une conférence comme ça pour briser les barrières, comme je l'ai dit, pour essayer de créer un cadre de concertation, un cadre de discussion entre les deux acteurs, pour que la collaboration soit une collaboration de confiance. Et c'est une conférence que nous avons organisée à l'université d'Abomey-Calavi qui a mis ensemble 100 personnes, une centaine de personnes, des chercheurs et des journalistes, et une conférence qui a permis aux deux acteurs de se dire la vérité. C'était un peu chaud, c'était un peu houleux, mais ça a permis aux deux acteurs quand même de se comprendre et de définir de nouvelles bases de collaboration.
C'est très important, c'est ce que nous avons fait ici même aussi à Lausanne, il y a eu un atelier francophone qui nous a tous réunis. C'est vrai qu'on peut se dire les choses, des difficultés, le mépris que peuvent avoir les uns pour les autres, mais être journaliste scientifique aujourd'hui sur le continent, c'est quand même particulier. Vous n'êtes pas si nombreux, moi je suis ravie de vous avoir ici et je suis ravie que vous soyez nombreux dans cette conférence. Vous m'avez tous parlé, on l'a dit, de la difficulté de l'accès aux sources, la question des moyens, évidemment on y reviendra, de la confiance mutuelle, de la formation. Mais je voudrais commencer par la plus fondamentale de toutes les libertés, c'est la libre circulation des hommes et des idées sur le continent. Plusieurs de vos confrères invités par la JSPI, notre association de journalistes scientifiques françaises, dans cet atelier francophone à Lausanne, n'ont pas pu nous honorer leur présence pour cause de refus de visa ou autres tracasseries, voire absurdités administratives. Je pense notamment au journaliste scientifique Julien Tchongwang, journaliste camerounais, rédacteur en chef adjoint de l'édition francophone de SciDev, qui n'a pas pu venir, mais il y en a d'autres, hein, des journalistes maliens. Au fond, c'est le premier obstacle, finalement, c'est d'avoir des visas pour pouvoir circuler, réseauter sur le continent et ailleurs. Vous avez été confronté, vous, à ces questions de visa, Isaac ?
Oui, c'est un problème récurrent. Et vous savez que pour cette conférence, il y a eu des journalistes qui ont manqué. Il y a un journaliste de la RDC qui est, je pense, à Bukavu, qui n'a pas pu avoir son visa. Il a postulé pour le visa. Eh bien, 30 jours sont passés, il n'a pas de réponse. Jusque-là, il n'a pas de réponse. Donc, c'est un véritable problème, une véritable limite à la circulation des idées, à la circulation de la science, à la concertation des forces, à la coordination de l'ensemble des efforts qui devaient permettre de libéraliser davantage la science. Et je pense que les gouvernements, notamment occidentaux, devraient avoir un regard plus humain, un regard plus... favorable.
Et puis effectivement, nous, dans cette conférence internationale mondiale de journalistes scientifiques, on est là pour réseauter, on est là pour se rencontrer. Ouais. On n'est pas là pour ne pas pouvoir venir à cause d'un problème de visa, Lynn.
Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Heureusement qu'il y a quelques années déjà que le chef d'État camerounais a signé un accord avec la Suisse pour pouvoir entrer sans visa lorsqu'on a uniquement un passeport de service. Et ça a beaucoup favorisé les choses, mais je ne dois pas en dire autant pour les autres collègues qui n'avaient malheureusement pas de passeport de service. Avant cette réunion, par exemple, moi j'étais invitée à aller suivre les négociations sur le climat à Bonn, en Allemagne. Malheureusement, je n'y ai pas été parce que, on m'a tout simplement refusé le visa. Pourtant, j'avais toutes les preuves que je vais...
Vous venez travailler, vous venez faire votre métier de journaliste scientifique.
Justement, et malheureusement, je n'ai pas pu assister à la réunion parce que je n'avais pas de visa.
Valdès,
alors je pense que si on dit que la science est universelle, il faudrait mettre en place les conditions nécessaires pour qu'elle soit universelle, c'est-à-dire que pour que les idées, les savoirs puissent se conjuguer. Et ça commence justement, comme on l'a dit, par la libre circulation des personnes. Donc je trouve que c'est justement un frein à ce partage de conditions, à cet apprentissage. En fait, nous, on a eu la chance d'être ici pour apprendre, pour échanger avec les collègues, pour faire des connexions et tout. D'autres n'ont pas eu cette chance et finalement, ça va être un frein pour eux parce qu'ils auront loupé une si belle occasion de rencontrer des personnes.
Et Caroline, le plus grave, c'est que autant on refuse ces visas aux journalistes, autant on en refuse aux scientifiques eux-mêmes.
Hein. Aux chercheurs, bien sûr.
Aux chercheurs qui sont dans le continent noir et qui doivent venir ici.
C'est chanceux de gros problèmes pour venir apprendre de l'expertise de leurs confrères.
On pourrait faire une émission là-dessus, on peut juste le déplorer que tout ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant autour de la question comment développer le journalisme scientifique. Allez, on écoute la Camerounaise, les Camerounaises sont à l'honneur, la Camerounaise Charlotte Dipanda, prix découverte RFI 2018. On a choisi le morceau Kenesso, Aller de l'avant, spécial dédicace à Julien Tchongwang à Douala et à tous nos collègues sur le continent, chercheurs ou journalistes qui n'ont pas eu le visa pour réseauter avec nous.
Bubu kenesso, se kalyana lema bume ye, babu na bubu kenesso.
Kenesso, Charlotte Dipanda sur RFI, en clin d'œil à nos auditeurs au Cameroun qui nous écoutent à Douala sur 97.8. Autour de la question « Comment développer le journalisme scientifique sur le continent ?» Table ronde à Lausanne en compagnie de nos précieux confrères et consoeurs journalistes scientifiques du continent invités à participer à cet atelier francophone organisé lundi par la JSPI, l'Association des journalistes scientifiques français, ici à Lausanne, qui a donné lieu à des échanges passionnants car les défis sont de taille. Nous sommes en compagnie de Lynn-René Batonguet, de Valdez Onanina, d'Isaac Ouningbe et de Mamadou Traoré. Qu'est-ce que vous a apporté cet atelier qui s'est déroulé lundi ici à Lausanne? Vous avez pu croiser d'autres collègues francophones, Mamadou Traoré, venu d'Abidjan.
Oui, déjà, le réseautage, connaître d'autres journalistes scientifiques et savoir que nous pouvons faire des coproductions ou des productions ensemble, collaborer, c'est déjà quelque chose de grand. Parce que souvent, nous travaillons chacun dans son pays, alors que les défis sont quand même assez globaux.
Quels sont les principaux défis ou les principaux obstacles que vous rencontrez à Abidjan, en Côte d'Ivoire notamment, Mamadou Traoré?
Les principaux obstacles, comme l'a dit tout à l'heure Lynn, c'est surtout l'accès aux sources. L'accès aux sources est vraiment compliqué parce que la Côte d'Ivoire, quand même, qui est un pays qui a connu diverses crises depuis certaines années, les gens sont souvent beaucoup méfiants, surtout dans l'administration publique. Alors, avoir
ils ne veulent pas parler aux journalistes.
Souvent, ils ne veulent pas parler aux journalistes. Souvent, il faut attendre d'abord l'autorisation du ministre, l'autorisation du responsable. Et même souvent, même dans un hôpital, on a besoin d'une information. Bon, on ne peut pas parler. Il faut l'autorisation de la direction régionale. La direction régionale demandera l'autorisation du ministère, etc. Souvent, ça fait perdre un peu de temps pour des journalistes. Comme moi, par exemple, je suis agencier. Et les agenciers, souvent, ont vite besoin d'informations pour informer, alors que le journaliste scientifique a besoin de prendre toutes les précautions.
Et vérifier ces informations
avant de les mettre en ligne. Alors là encore, ça, c'est le véritable défi. Mais aussi un défi au niveau des chercheurs qui sont également, qui travaillent, qui n'ont pas, ce n'est pas peut-être pour des questions de volonté et de ne pas parler aux journalistes, mais souvent même c'est une question de formation et de culture.
Ils ne savent pas parler aux journalistes, parce que nous, on rencontre des chercheurs, soit qui ont été formés, soit qui publient et qui ont envie finalement de parler quand on leur laisse le temps. Mais ce n'est pas le cas sur le continent, c'est plus difficile.
Oui, c'est plus difficile parce que les gens ne sont pas sensibilisés même à l'enjeu de parler aux journalistes. Parce que souvent, ils ne savent pas que, quand parlant aux journalistes de leur recherche, ils exposent d'abord leur recherche au grand public, ils exposent leur recherche aux financiers, à tous les fonds qui financent la recherche. Ils exposent également leur recherche à d'autres chercheurs qui peut-être travaillent sur le même sujet qu'eux et permettent une possibilité de collaboration. Alors, quand on les sensibilise comme ça, je pense que ça commence à leur ouvrir les yeux et on essaie de toucher des centres de recherche et leur comprendre l'importance de travailler avec les journalistes.
Isaac Ouningbe, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus parce que vous êtes médecin au départ et vous êtes devenu journaliste scientifique pour faire passer ça, c'est-à-dire les recherches qui se font, la science, l'expliquer.
Bien sûr, je suis devenu journaliste comme ça parce que je trouvais que dans les médias, les sciences étaient très peu visibles, on ne les voyait presque pas. Mamadou l'a dit tout à l'heure, c'est que de la politique. Et donc, c'était ma vision, c'est toujours ma vision, parce qu'effectivement, nous sommes là, il y a beaucoup de défis à le contester, parce que quand vous dites que vous êtes journaliste scientifique en Afrique, les gens, même les journalistes, vous regardent bizarrement, c'est quoi cette notion de journalisme scientifique? Bon, voilà, pourquoi vous essayez de vous distinguer des autres? Il y a aussi le contexte financier.
Ouais,
il y a un
très problème
de rentabilité des productions de presse. Les journalistes aujourd'hui qui font de la science, c'est de leur bonne volonté. Hein. Ils ne peuvent pas en vivre, non. Ils ne peuvent pas en vivre, c'est de leur bonne volonté. Ils mettent leurs propres moyens à contribution. Moi, je ne peux pas vous dire si j'ai gagné quelque chose en faisant du journalisme scientifique.
C'est un choix, c'est une volonté.
C'est une volonté, vous êtes passionné. Et puis, il y a des jeunes derrière qui poussent. Je vous donne un exemple. La dernière fois, nous faisons de la radio. La dernière fois, il y a un jeune qui s'appelle Moubarak, qui est jeune journaliste, qui a mis à notre disposition des caméras, du micro, pour nous aider à faire des productions vidéo gratuitement. Voilà, et il vient, et voilà, il ne gagne rien. Donc, c'est d'abord une passion. Donc, il faut travailler à une rentabilité des productions. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais c'est une réflexion sérieuse à faire. Sinon, les gens sont engagés au début et puis par la suite, comme ils n'en gagnent rien, eh bien, ils finissent par se décourager.
Non, c'est une vraie question des moyens et du financement,
et
évidemment.
Et ensuite, l'autre défi, c'est la collaboration avec les chercheurs. On l'a toujours dit, les chercheurs chez nous en Afrique, ils sont plus préoccupés par la progression dans la carrière universitaire, devenir maître de conférence, professeur titulaire, que de passer les recherches qu'ils découvrent. Et donc,
de faire comprendre pourquoi ils travaillent.
Pourquoi ils travaillent. Si, en fait, pour eux, l'essentiel, c'est de publier dans les revues scientifiques, approuvées par leur pair, et puis ça va.
Mais c'est tout un système qu'il faut
changer. Il faut déconstruire les idées qui ne favorisaient pas donc la présence des sciences dans les médias. Il faut former les chercheurs à la communication avec les médias, et il faut former maintenant les journalistes aussi à l'ensemble de la méthodologie utilisée par les chercheurs pour qu'on puisse trouver un point de convergence entre les deux acteurs.
D'autant plus que c'est essentiel, et j'ai envie de vous faire réagir, parce que vous travaillez sur la question du développement durable, de l'environnement, et que ce soit en santé également, c'est essentiel de faire passer les recherches, la science, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est rumeur à la population.
Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, toutes les recherches qui sont faites, c'est pour quel but? C'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ça, les chercheurs doivent le comprendre à la base, et du coup, chercher à vulgariser les résultats de leurs recherches, non pas les garder dans les tiroirs, dans les laboratoires et autres. Malheureusement, beaucoup de chercheurs ne comprennent pas que non, ils doivent plutôt s'allier aux journalistes pour pouvoir vulgariser ces résultats qu'ils obtiennent très, très souvent.
Et est-ce que vous, par exemple, qui travaillez pour la télé, radio-télévision camerounaise, vous êtes reconnu, respecté? Est-ce que vous arrivez, quand vous allez sur le terrain, à faire parler les gens, à les filmer, à faire votre métier de journaliste scientifique de terrain?
Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. En fait, Yves, c'est un travail de longue haleine, en fait. C'est un travail de très, très longue haleine, parce qu'il faut amener le chercheur à te faire confiance. Il faut lui expliquer que en réalité, c'est pour son bien, mais c'est surtout pour le bien des populations, même pas tant que son bien, non, mais surtout pour le bien des populations, parce qu'il est là au service des populations, tout comme toi, le journaliste, tu es au service des populations. Malheureusement, beaucoup de chercheurs en Afrique confondent les deux, et du coup, l'administration a pris le pas sur la recherche qu'ils font. Beaucoup n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à vulgariser les résultats de leurs recherches parce qu'ils sont sous le coup de l'administration. Un chercheur te dit par exemple, non, il faut d'abord aller prendre l'autorisation de mon ministre, ce qui n'est pas normal. Tu n'es pas un administratif. Le chercheur est un scientifique et donc il doit parler directement, il ne doit pas attendre avoir l'autorisation d'une autorité de ministre.
Il faut vraiment faire bouger, faire changer les choses, et c'est d'autant plus important, Valdès Onanina, qu'aujourd'hui on est à l'heure des fake news, que les informations circulent sur le net. Vous êtes membre de la rédaction francophone d'Africa Tchèque à Dakar, et du coup, finalement, votre rôle, c'est très important, c'est de... Parce que la population, elle est informée, mais elle est mal informée.
Je pense d'abord, je vais souligner qu'il y a, comme disait Stéphane Kémoun tout à l'heure, c'est un problème de culture scientifique. Je ne pense même pas qu'aujourd'hui on ait besoin de rappeler à un chercheur, à un scientifique, que le fait qu'il intervienne soit au bénéfice de la population. C'est le sens même de la science, en fait. Et donc, du coup, nous, les chercheurs, les scientifiques, sont au centre, en fait, du travail qu'on fait. Parce que quand on démonte des rumeurs, quand on démonte des hoax ou des fausses informations sur la santé, c'est par la voix, c'est par l'argumentaire de ces chercheurs-là. Nous, c'est ce qu'on essaie de leur vendre, du coup. Donc, on dit aux chercheurs, écoutez, essayez vraiment de collaborer, ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on rencontre, justement, ces problèmes avec les chercheurs locaux, je vais préciser, les chercheurs africains, qui n'ont pas, justement, ce réflexe de liberté. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un problème d'indépendance de chercheurs qui se pose, parce qu'à chaque fois, ouais, il faut que je me réfère à tel, ou même ils ne vous répondent pas. Et donc, du coup, nous, souvent, on est obligé d'essayer de contacter des chercheurs à l'étranger, Dernièrement, je me rappelle qu'on a eu à collaborer avec un chercheur du CNRS à Paris. Vous vous rendez compte, pour un article qu'on faisait à Dakar.
Sur quoi, par exemple? Enfin, sur des thématiques, par exemple, quand vous dites en santé, c'est pour les fake news, c'est quoi?
Oui, les fake news, par exemple, sur le cancer. Je sais que le cancer au Sénégal, où nous travaillons au Sénégal, le cancer et le diabète sont deux maladies sur lesquelles il y a beaucoup de recettes miracles qui sont proposées sur les réseaux sociaux. Et souvent, d'ailleurs, ces recettes miracles viennent de sites internet français.
Et donc, on y croit. Et donc, on croit que c'est vrai.
Mais les gens y croient parce que, du coup, il y a une raison à ça, en fait, parce que nous étions il y a quelques mois en atelier où on réfléchissait un peu au mécanisme de ces systèmes de croyances, comme on appelle en désinformation, et c'est que les gens n'ont pas d'argent. Si moi on me dit que le gombo permet d'éliminer 75% des cellules de cancer du sein, et que d'ailleurs j'aime bien le gombo, mais c'est tant mieux pour moi, parce qu'avec 300 francs CFA, je m'achète du gombo, et comme ça, moi, ça me permet de... Voilà, de... Sauf que c'est pas prouvé, c'est pas scientifiquement prouvé.
Voilà, parce qu'en fait, ce que vous faites, qui est excellent dans Africa Check, vous dites pas que c'est faux, parce qu'on sait pas très bien. Vous dites ce qui est prouvé scientifiquement,
c'est
ce qui ne l'est pas.
C'est ça, parce qu'en fait, il faut pas quand même. C'est des choses assez sensibles. Les gens croient en certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a une démarche.
Pas de mépris, et puis des choses peuvent marcher.
Exactement, en fait. On ne sait pas. Je discutais avec un médecin il y a quelques temps sur un article sur lequel je travaillais sur le gingembre. Parce qu'il y avait un article comme quoi le gingembre a des vertus pour la santé du cœur. Et donc, il m'expliquait en off, ouais, il y a des substances qui sont bien pour le cœur, donc peut-être que c'est vrai, mais sauf que peut-être qu'en même temps, cette mixture dans laquelle on injecte du gingembre peut vous abîmer le foie à côté. Donc, du coup, je pense que aux gens, ne leur dites pas toujours que c'est faux, mais que la science ne le prouve pas. Et donc, nous, c'est une démarche qu'on a vraiment adoptée pour dire aux gens, en tout cas, c'est quelque chose que la science prouve ou pas.
Autour de la question comment développer le journalisme scientifique sur le continent africain. Allez, on continue de s'interroger ensemble dans cette conférence internationale du journalisme scientifique à Lausanne, dans les studios de la radio suisse romande. On réseaute et on s'ambiance même. Tiens donc, avec Jovi, qui rend hommage au roi de la rumba congolaise, Taboulé Rochereau. Pitié sur RFI, c'est votre choix, Valdès, et il n'y a rien à ajouter.
Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Yeah.
They say Africans are so broke. They know they talk about me, yo. I give the girls hope. Every time I'm overseas, yeah. Money not my first wife. If you not know, be no. Huh? Don't for quite be not my knock door. Yeah, na money I de blow. She's on my bed every day. Yeah, what you want me to say? Yeah, it's all about getting paid. Go back home and get laid. Now I see a lot of haters. Police, they want to love me. My girl wanna stress me. Cause all these ladies wanna bout me. Yeah.
Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
My flow is green mop. Congo me. See how they shake for this, then I cook a leaf. In short, my pap no be ever cold. He mutu muna die, so my song no be ever old. Man a hustler, wise man. I made plans to shake hands with the best. And no sickle and japa. I doubt if I'm a rapper, you want a booty clapper. I celebrate, my hustle don't shift yet. I never postpone, I take it all this yet. Me a the seafowl, boy I been a Pharisee. The jealousy pass, so boy you been a Sadducee. Open as they run, kill him with the flow. Line him up in one take, kill him in the rope. Open up a bank account, fill it with the dough. Next week I did for semi bitch, chillin' with the hoes. Yeah.
Pitié, toi mon amour. Pitié.
Pitié sur RFI, ça groove décidément dans les studios de la radio suisse romande, installée sur le campus de l'EPFL, au cœur de la conférence mondiale des journalistes scientifiques à Lausanne, à laquelle participent nos invités Mamadou Traoré de l'agence ivoirienne de presse à Abidjan, le docteur Isaac Hungningbe de Radio Univers à Bomé-Calavi, Lynn René Batongué, journaliste scientifique de terrain à la radio-télévision camerounaise, et Valdès Onanina d'Africa Tchèque à Dakar. C'est vous, Valdès, qui avez choisi ce morceau pour nous ambiancer. traverser et nous entraîner du côté du Congo autour de la question comment et pourquoi développer le journalisme scientifique en Afrique. Je vous propose un nouvel éclairage vu du Congo-Brazzaville. C'est celui d'une chercheuse d'exception, Francine Toumi, première leader africaine de l'initiative mondiale contre le paludisme. Francine Toumi dirige aujourd'hui le laboratoire de biologie moléculaire et le centre de recherche sur les maladies infectieuses de la cité scientifique à Brazzaville sur le paludisme où elle poursuit ses recherches. Notre reporter Charlie Dupiot lui a demandé ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait du journalisme scientifique. Écoutez sa réponse.
La presse scientifique au Congo est très peu développée. Je crois que je connais deux journalistes impliqués et qu'elle a besoin de formation encore. Là aussi, il faudrait que la télévision congolaise, peut-être en ce qui concerne les émissions télévisées, peut-être investisse dans la formation de ces journalistes. Bon. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais il est certain que c'est nécessaire, justement, pour faire, quand je disais que les scientifiques africains ne communiquent pas assez sur leur succès et sur ce qu'ils font, justement, parce que il y a le chaînon manquant. Un scientifique ne saura pas trouver les mots exacts pour expliquer ce qui fait ou vulgariser vers le grand public ce qui fait ou la force de sa découverte ou de ses résultats. Un journaliste scientifique est formé pour pouvoir comprendre et trouver les mots pour que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre. Donc c'est extrêmement important parce que sinon justement, on n'aura pas les financements des décideurs. Les décideurs ne lisent pas les publications scientifiques. Donc c'est par la presse. Quand ils apprennent, il y a telle découverte, c'est chez nous, ils ouvrent les yeux et les oreilles et après le portefeuille. Voilà, donc c'est extrêmement important, très très important.
Qui veut réagir hein? Je vois que, allez, Isaac, c'est le premier à lever la main, donc c'est Isaac.
Elle a totalement raison sur le défi même du financement. Parce que si on ne parle pas de science dans les médias, le président de la République, le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, ne saura pas qu'il y a des choses qui se font et qu'il faut financer. Est-ce que vous voyez ? Si on ne diffuse pas, si on ne parle pas de science dans les médias, les enfants d'aujourd'hui qui seront les décideurs de demain ne sauront pas qu'il faut investir dans la science. Si on leur parle tout le temps de politique, ils diront que c'est dans la politique qu'il faut investir. Donc, c'est un vrai enjeu de développement, un vrai défi. Et je pense que pour même susciter les vocations, on dit aujourd'hui en Afrique que les jeunes s'intéressent de moins en moins aux filières scientifiques, mais pour susciter aussi ces vocations-là, il faut faire de la science dans les médias.
Et il faut des modèles aussi, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de vous dire, mais prenez des modèles comme Francine Toumi, par exemple, que nous avons rencontré à l'IRD à Paris. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il faut des modèles et il faut former, effectivement, les jeunes générations.
Justement. Mamadou. Moi, je pense que c'est surtout les jeunes générations, c'est sur eux qu'on doit compter. Parce que aujourd'hui, les jeunes qui sortent des universités sont encore plus dégourdis et ils ont envie d'apprendre. Moi, j'ai un jeune journaliste qui vient d'arriver à l'AIP quand on a créé l'association. Tout de suite, il est venu me voir et dit « Chef, je veux être dans l'association. »
Des journalistes scientifiques
dans l'association des journalistes scientifiques ivoiriens. Parce que, on essaie de porter ce message-là aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est appréciable en Côte d'Ivoire, c'est que pratiquement toutes les stations radio ont des émissions santé et environnement. Mais il manque la formation. Il faut former parce qu'une émission scientifique où on reçoit peut-être un traduit praticien qui rentre encore dans le mystique et tout ça, qui n'est pas assez, tout cela n'est pas assez, je veux dire, cartésien.
C'est ça, vérifier. Cartésien, absolument. Oui, ou sinon, il faut les inviter avec un chercheur,
Avec un chercheur ensemble, comme ça, on peut discuter parce que, tout cela fait partie de l'environnement culturel et de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais en même temps qu'on invite ce genre de personnes-là, et on peut tromper son audience. Et souvent, des médias ont relayé, surtout en situation de crise sanitaire, c'est compliqué. Et la Côte d'Ivoire était menacée. On n'a pas eu la fièvre Ebola n'a pas touché la Côte d'Ivoire, mais on était dans une zone où des pays frontaliers étaient touchés. Et là, des gens souvent passaient des informations telles que la cola peut permettre de se prémunir contre l'Ebola et peut prévenir l'Ebola. C'était compliqué. Et là, on avait besoin aussi du fait du fact-checking et essayer de donner la bonne information, toucher les vrais scientifiques. D'où l'importance du fact-checking.
L'importance du fact-checking, effectivement. Et l'importance, parce que c'est vraiment des sujets complètement essentiels. Enfin, c'est fondamental, ces questions de santé.
Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est des sujets qui touchent directement au quotidien des personnes. Et donc derrière, je pense que le journalisme scientifique, la vérification, c'est justement un rempart contre ces fausses informations, ces croyances assez.
Mais en même temps, on se dit comment convaincre ces jeunes générations, comment les former, quand on se rend compte en vous rencontrant que c'est votre bonne volonté vraiment qui y fait, que vous voulez être journaliste scientifique, mais que c'est quand même pas le plus facile, c'est pas ça qui va leur permettre de gagner leur vie. Enfin, c'est assez compliqué, hein, Lynn.
Effectivement, ce sont des sujets qui concernent l'économie, la politique, en réalité, qui rendent les journaux, qui rendent les médias vendables aujourd'hui en Afrique. Par contre, l'information scientifique, elle est toujours reléguée au dernier plan. Mais maintenant, c'est aux journalistes, en réalité, de pouvoir faire de la science une star. Donc, mettre la science en avant dans les médias, faire de la science sexy, quoi, rendre la science sexy, comme on a l'habitude de le dire. Mais pour cela, il faut effectivement une culture scientifique. Le journaliste a besoin d'être formé à la base. Et ça, c'est très, très important parce que le scientifique, il n'a pas toujours les mots justes pour pouvoir faire comprendre ce qui a fait comprendre aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est aux journalistes de ramener ça au niveau de ces personnes-là, au niveau de la population. Et ça, c'est très important.
On a besoin
Mais
de ces intermédiaires.
C'est beaucoup plus une équation personnelle. C'est beaucoup plus une équation personnelle parce qu'il faut qu'à la base, le journaliste aime d'abord le journalisme scientifique parce que ça ne rapporte pas, ça ne donne pas de l'argent. Donc, ça doit être une question d'amour.
Mais oui. Finalement, je me demande finalement quel journalisme rapporte si on veut être
sur le continent.
Sur le continent.
Donc,
je pense juste qu'il faut.
Ah, journaliste politique, c'est mieux que journaliste scientifique.
Parce qu'on va faire quoi?
Parce qu'on va en reportage tous les jours, on vous donne 5 000 francs, 10 000 francs, on vous donne un petit per diem.
Oui, parce qu'il y a la question des enveloppes aussi, d'argent. Il faut payer pour les interviews aussi.
Ça, c'est une autre chose. Mais moi, je pense qu'il faut juste s'intéresser déjà à son métier. Et je pense que justement, la science doit, au même titre que le sport, la culture, les faits divers et tout, doit avoir sa place dans les... Mais il y a une chose, en fait. Je pense qu'au-delà de... Avant de parler même de la formation du journaliste, avant de dire qu'on veut faire du journalisme scientifique la star, je pense qu'il faut faire des chercheurs les stars, en fait. Il faut faire comprendre aux chercheurs qu'on a besoin de vous pour faire ce journalisme-là. Parce qu'il y a des chercheurs qui se plaignent qu'il n'y a pas de journaliste scientifique, mais en fait, c'est eux qui feront le journaliste scientifique.
Et c'est en les mettant en valeur, ces stars-là, ces chercheurs-là, ces parcours-là.
Et nous, c'est ce qu'on explique, parce que par exemple, à Dakar, on a des difficultés à discuter avec des chercheurs. Ce qu'on a fait, parce qu'on a vu qu'on avait du mal à les contacter directement. Nous, par exemple, on a réfléchi à une chose toute simple, en fait, c'est de contacter les différents instituts qui ont des chercheurs. Par exemple, l'IRD à Dakar, que nous avons approché il y a quelques années, et avec qui on a discuté, on a essayé de faire comprendre l'importance pour nous déjà, qu'ils interviennent par exemple dans nos articles et tout, et aussi pour eux, de mettre en valeur le travail de leurs chercheurs quand leurs études sont citées dans nos articles, quand ils interviennent.
Et comme ça, vous avez la caution de l'Institut de recherche pour le développement.
Exactement, vous voyez, et ça, c'est quelque chose que l'IRD a compris. Ils ont compris la nécessité de ce travail, ils ont vraiment épouser l'enjeu de la vérification des faits en matière de santé précisément.
Et en collaboration, finalement, c'est vraiment une question de collaboration, Isaac.
Oui, c'est une question de collaboration. Je voudrais revenir sur la rentabilité. Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, la recherche n'est pas financée par les gouvernements locaux. En tout cas, c'est une infime partie de financement. Les financements viennent beaucoup plus de l'Occident. Donc, les chercheurs postulent pour des projets de recherche, et puis ils ont le financement. Moi, je voudrais que les instituts qui lancent ces projets de recherche mettent aussi le volet vulgarisation dans les médias. Ça peut être fait. C'est-à-dire qu'en accordant à un institut de recherche, à un laboratoire, eh bien, le financement pour la recherche, on lui impose un côté médiatisation, et une partie peut-être du financement revient aux médias qui s'intéressent à la vulgarisation. Ça peut permettre à ces journalistes qui s'intéressent à la question d'être un peu plus indépendants.
Voilà une bonne piste. Voilà une bonne piste à suivre.
La volonté.
Mamadou, un mot?
Oui, c'est justement ce qui m'amène à féliciter même les organisateurs du panel tout à l'heure sur la philanthropie au profit.
Ici, à Lausanne, dans cette conférence internationale.
Oui, ça c'est très important. Ça permet de voir des partenaires, des fonds qui aident à la pérennisation, au développement du journalisme scientifique. Ça,
c'est de l'intérêt de réseauter ici et d'être ici, là, dans cette conférence mondiale des journalistes scientifiques à Lausanne, autour de la question comment faire entendre justement les voix de la recherche en Afrique. Allez, on écoute celle vibrante d'Angélique Kidjo sur RFI dans une réinterprétation étonnante de l'album Remain in Light des Talking Heads. On reste dans la lumière grâce à vous, Isaac, et ça déménage avec Angélique Kidjo sur RFI, Born Under Punches. Avec notre béninoise internationale Angélique Kidjo sur RFI. Merci Isaac pour ce choix qui doit ravir tous nos auditeurs béninois que l'on salue et qui nous écoutent à Cotonou sur 90.fm. Autour de la question comment développer le journalisme scientifique en Afrique et en réseau, question ouverte ici à Lausanne, à la Conférence internationale des journalistes scientifiques en compagnie de Mamadou Traoré, de l'agence ivoirienne de presse à Abidjan, de Valdez Onanina d'Africa Check à Dakar, d'Isaac Ouningbe de Radio Univers à Abomey-Calavi. À la vie, merci Isaac. Et de Lynne-Renée Batonguet, journaliste scientifique, chef du service environnement et développement durable à la radio-télévision camerounaise. Quel sujet, pour conclure, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission qui pourrait durer 2 heures, quel sujet d'actualité vous traitez, vous pourriez traiter, et quel sujet tabou finalement, quels sont les sujets en science qui ne passent pas du tout dans les médias sur le continent? Qui veut commencer? Valdez,
ben je vais commencer parce qu'on a
Africa Check à Dakar.
Ouais, en fait, on a d'énormes difficultés à traiter des sujets qui relatifs au sexe. Africa Check, et pourtant on sait qu'il y a énormément de fausses informations, en tout cas de rumeurs sur telle recette permettrait de recouvrir sa virginité, tel remède permettrait de stopper les règles douloureuses chez les femmes, et souvent on a du mal, on parvient parfois à mettre la main sur des médecins, des chercheurs et tout, mais derrière ils veulent pas parler en fait, ou alors ils disent qu'ils partent en off, ils veulent pas être cités. Pourtant la règle chez nous Africa Check, c'est que chaque
on
personne
cite ses
qui
sources,
intervient
hein.
Voilà, doit être cité pour être le plus transparent possible. Donc sur le sexe, voilà, il y a un gros tabou encore dans le travail que nous faisons.
Tabouez-vous, Lynne, au Cameroun?
Et comme on le disait justement tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut que le journaliste sache comment amener le scientifique à pouvoir parler, à pouvoir lui dire. Nous, au Cameroun, par exemple, ce qu'on a organisé au sein de l'association des journalistes scientifiques, SciLife, on organise 1 à 2 fois par mois ce qu'on appelle un café scientifique. On fait venir un scientifique. Alors, on est nombreux, on est issus de différents médias, presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne et autres. Nous l'écoutons, nous posons des questions et du coup, c'est chacun qui l'interviewe, c'est chacun qui rentre dans son média pour en parler et peut donc le citer parce que c'était une entrevue publique et donc il ne peut pas se débiner et dire non, je ne voudrais pas parler. Nous, c'est l'astuce qu'on a trouvée.
Excellente initiative, ça c'est grâce à votre association SciLife, l'association de journalistes scientifiques au Cameroun.
Et petit à petit, on intéresse aujourd'hui la jeune génération, on les invite, ils font désormais partie de cette association-là. Ils sont de plus en plus nombreux justement à venir s'inscrire.
Alors, Mamadou Traoré, du côté d'Abidjan.
Ah oui, nous, le grand défi aujourd'hui, c'est de mettre en place un réseau de chercheurs prêts tout de suite à réagir sur des sujets factuels. parce que là, ça manque beaucoup en Côte d'Ivoire. Et
quand des réactions rapides sur les infos,
parce que l'actualité est essentiellement factuelle en Côte d'Ivoire. Et les informations informelles ne sont pas vraiment, n'occupent pas la grande place. C'est les informations factuelles et institutionnelles qui sont vraiment et qui occupent la grande partie de l'information. Alors, il faut qu'on ait dans plusieurs disciplines une plateforme de chercheurs initiés ou vraiment sensibilisés à la communication scientifique pour pouvoir les toucher rapidement. Et notre association essaie de mettre en place cela pour que des journalistes, quand ils ont des difficultés, puissent nous appeler pour qu'on puisse toucher rapidement un chercheur.
Et oui, vous parlez de questions de santé tout à l'heure. Quand il y a des risques d'épidémie, il est fondamental d'avoir tout de suite le chercheur sous la main qui vous dise ce qu'il faut faire ou pas.
Oui, justement. C'est vraiment essentiel. Et ce que j'apprécie pour l'instant, lui, il parlait tout à l'heure de questions sexuelles, mais je parle d'éducation à la santé sexuelle et reproductive, qui est aussi un enjeu important. Parce qu'aujourd'hui, on parle de croissance. Il y a également la pression démographique également qui est là dans nos villes, dans nos grandes villes. Il faut éduquer les jeunes pour que la pauvreté puisse diminuer. Et puisque un jeune à 18 ans, une jeune fille à 18 ans qui est enceinte, tout de suite, elle risque de ne pas aller à l'école, ça risque d'agir sur la pauvreté. Donc, il faut éduquer. Et à ce niveau-là, il y a des chercheurs, il y a des instituts qui sont vraiment ouverts. Et qui, si vous me permettez, l'AIBF en Côte d'Ivoire, il y a également le FNUAP qui sont ouverts, qui donnent l'information, qui permettent aux chercheurs de parler sur ces questions-là. Et ça, c'est très important.
Ah oui, c'est fondamental. Et heureusement que les journalistes scientifiques comme vous s'accrochent, se réunissent en association et arrivent à faire passer ces infos-là. On va terminer avec vous, Isaac Ouningbe.
Oui, au Bénin, après la conférence Science Presse que nous avons organisé. Il faut dire quand même que les choses ont évolué. Les chercheurs et les journalistes se rencontrent de plus en plus et nous pensons, dans les mois à venir, organiser un acte 2 de la conférence, un acte 2 qui va permettre donc de former les chercheurs à la communication avec les médias et de former aussi des journalistes à la méthodologie scientifique. Donc, c'est quelque chose que nous prévoyons dans les mois à venir. Et puis, ce sur quoi aussi je voulais insister, c'est qu'au niveau de notre radio, nous avons une division scientifique qui est une division importante chez nous. Et nous faisons régulièrement des productions. Nous recevons par semaine au moins 2 chercheurs pour parler de découvertes. Et puis, actuellement, nous faisons découvrir à nos auditeurs les recherches au niveau de la Faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abomey Calavi. Je voudrais quand même faire un clin d'œil à ces jeunes-là qui se battent tous les jours. Giraud Togbé, Orsignac Bankoton, Charlotte Ezebada, Pancras Ntchigbé, des jeunes qui, sans moyens, sans rien, se donnent à la question scientifique. Moubarak Liadi.
Les salue tous. Merci infiniment à tous les 4. Lynn-Renée Batongué, Valdez Onanina, Mamadou Traoré, Isaac mais d'avoir partagé avec nous toutes ces pistes, ces interrogations, puis votre énergie à déplacer des montagnes. Chapeau, votre rigueur aussi. Allez, on continue ici de s'interroger ensemble et on en profite pour rester en lien et même après la conférence. Hein, vous êtes les bienvenus sur notre antenne et merci à nos amis de la radio-télévision suisse pour ce studio improvisé en plein cœur de cette conférence. C'est un vrai plaisir de collaborer en francophonie avec vous tous. Un grand merci.
Merci Caroline.
Merci. Un plaisir que nous avions envie de vous refaire partager, chers amis auditeurs et auditrices, en cette journée mondiale de l'Afrique. Nous restons bien sûr en lien avec nos consoeurs et confrères du continent et vous donnons rendez-vous en direct demain autour de la question « Pourquoi réinventer la roue ?» Ben oui, pourquoi ? Alors que le monde semble en roue libre, pourquoi et comment se pencher sur l'histoire politique de la roue, cette invention simple et géniale qui nous a peut-être mené un peu trop vite et un peu trop loin ? Interrogation à partager demain pour tenter qui sait de réinventer la roue ensemble. Avec Hugo Violas à la réalisation, ici à RFI, Caroline Fillette en coulisses depuis son domicile et Caroline Lachowski au micro de votre radio mondiale. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Prenez bien soin de vous. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.
Qu'est-ce que tu regardes?